Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2016 et nous allons discuter d'une vulnérabilité OpenSSL qui s'appelle Drone. Donc pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Christophe Renard.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors Nicolas, cette vulnérabilité SSL, une de plus, j'ai envie de dire.
Oui, là on peut dire que la saison commence fort, parce que en fait c'est pas une vulnérabilité, hein, c'est une attaque. Drone attack, D-R-O-W-N, ce qui veut dire « Decrypting RSA with obsolete and weakened encryption ». Mais pour que l'attaque fonctionne, en fait, il y a une combinaison de plusieurs vulnérabilités. Et en plus, il y a d'autres vulnérabilités qui font que l'attaque est encore plus efficace. Voilà. Donc, si tu regardes bien l'advisory OpenSSL qui est sorti le 1er mars, en fait, il corrige au moins une dizaine de failles différentes dont la plupart sont liées à cette attaque.
Et j'ai pas compris comment ça marchait. Là, tu dis qu'il faut que ça utilise plusieurs combinaisons de failles. Tu peux expliquer plus en détail, Nicolas ?
Alors, en fait, il y a un site web qui est très bien fait. La faille a été découverte par un consortium de recherche qui inclut une université américaine, une université allemande, Google, je crois qu'il y a des chercheurs israéliens, enfin il y a une dizaine d'auteurs en gros sur le papier. Et donc ils ont un logo, ils ont un site web, enfin tout est green. Donc la faille, ça fonctionne comment ? En fait, tu dois écouter passivement du trafic SSL TLS, peu importe la version. Donc même si c'est du TLS 1.2, la seule contrainte, c'est qu'il faut que le client demande du RSA, que la suite négociée à la fin soit du RSA, enfin qu'on prenne du RSA avec peut-être du HMAC, SHA-1 derrière, des trucs comme ça, mais peu importe. Ensuite, à partir de là, l'attaquant va en fait essayer de retrouver la clé de session qui a été utilisée. Donc en fait, il va pas récupérer la clé privée RSA ou le certificat ou quoi que ce soit. Par contre, il va essayer, à partir de la trace réseau dont il dispose, de retrouver la clé de session symétrique qui a été négociée. Et pour ça, en fait, il va envoyer des paquets à ton serveur et il va servir de ton serveur comme d'un oracle. À partir de là, il va pouvoir déduire de l'information qui va permettre lui de reconstruire la clé de session.
Et il envoie quoi comme paquet ?
Alors ça, j'avoue que... Ouais.
Ben là, j'ai pas compris, là.
En fait, il fait du rejeu sur la session, et en fonction du message d'erreur, il est capable de
D'accord.
dire si...
Mais ça, c'est déjà pas évident, hein.
Bah, c'est pas évident. Je veux dire, tu vas sur un hotspot Wi-Fi, tu captures toutes les sessions PCAP, et ensuite, tu te reconnectes au même serveur que celui que l'utilisateur D'accord. a... Donc c'est trivial, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de preuve de concept disponible parce que l'attaque fonctionne a priori bien, donc ils veulent attendre que tout le monde soit patché. Mais bon, il y a quand même quelques chiffres dans le papier que j'ai pas sous les yeux, mais l'attaque fonctionne quand même bien. Alors ceci dit, ça reste quand même pas évident parce que souvent les clés de session, on va dire, ça va être de la S128 ou des trucs comme ça. Mais c'est là où il y a plusieurs autres failles qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est que l'attaquant, pour que ça fonctionne, il y a besoin de faire du rejeu et de négocier SSL V2 pendant la phase de rejeu. Alors tu vas dire tous les serveurs modernes bloquent SSL V2 parce que c'est pas dans les cipher suites autorisés, mais c'est là où il y a un deuxième bug qui intervient, c'est que tu peux quand même en tant que client parler SSL V2 avec le serveur, même si de son côté SSL V2 a été désactivé. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que t'es pas obligé de parler au serveur web d'origine. En fait, il suffit de parler à n'importe quel service qui fait du SSL. Donc, en fait, si tu penses à, par exemple, à un objet connecté, il va avoir un seul biclé. Donc, ça va être la même clé RSA qui va être utilisée, par exemple, sur le HTTPS, le SMTPS, l'IMAPS, etc. Donc en fait, à partir du moment où tu as n'importe quel de ces endpoints qui fait du SSL V2 et qui utilise la même clé privée, tu peux utiliser un autre endpoint comme oracle pour extraire l'information. Bon. Ensuite, il y a plusieurs autres attaques. Donc juste pour donner quelques chiffres du papier, donc ça je sais pas si c'est exact, mais en gros, il faut faire 40 000 connexions et 2 puissance 50 pré-calculs pour avoir une chance sur 900 de déchiffrer une connexion TLS. Donc ça, c'est l'attaque de base. Ensuite, il y a un troisième facteur qui rentre en ligne de compte, c'est que la quasi-totalité des serveurs utilisent en fait des suites export grade. Et en fait, même si tu les actives pas, le client peut quand même rebondir sur ces suites-là pour améliorer l'attaque. Donc à partir de là, dans la version améliorée, en fait, tu as besoin de 17 000 connexions pour avoir une chance sur 260 de déchiffrer. Voilà. Après, il y a encore quelques détails. Par exemple, dans la deuxième variante, qui est plus, enfin, qui te, où tu as besoin de très peu de calculs pour y arriver, en fait, du coup, tu peux quasiment faire du man in the middle, parce que, en fait, il suffit, sur un PC normal, d'après les auteurs de l'attaque, il faut une minute pour calculer la clé. Donc, si tu as un cluster de machines suffisamment puissant, en fait, c'est de l'ordre de quelques secondes. Et à partir de là, tu peux quasiment, en temps réel, faire un man in the middle sur un client pour attaquer la session. Voilà, bon, c'est un peu une oversimplification du problème, mais voilà, c'est une combinaison de plusieurs failles qui fait que l'attaque est carrément exploitable en pratique, puisque dans le pire des cas, en fait, avec 17 000 connexions, tu as une chance sur 200 d'être capable de retrouver une clé de session et de déchiffrer tout ce qui est passé dans la session. Et comme faut voir que les navigateurs modernes utilisent HTTP 1.1 et donc HTTP 2 et donc font du pipelining de connexion, en fait, ils ne ferment jamais la connexion TCP et tout passe dans la même connexion. Donc, une fois que tu as la clé de session de la connexion, tu peux déchiffrer tout ce qui s'est passé après, quoi.
Non, c'est clair. Par contre, il y a une chose qui me paraît un peu étonnante, c'est que la plupart des distribs Linux depuis plusieurs années désactivent dans la compilation le support de SSL V2 dans les librairies crypto et en particulier dans OpenSSL. C'est même quelque chose qu'on rencontre comme problème quand on fait de l'audit, c'est que les librairies supportant plus SSL V2, on a du mal à le détecter, il faut les recompiler à la main. Donc je suis un petit peu étonné qu'il y ait autant de machines dans la nature qui soient exploitables en downgradant SSL V2, ou alors il y a un truc que je n'ai pas vraiment compris.
Ben, moi, ce que j'ai pu lire dans le papier, c'est que, enfin, a priori, il y a aussi sur le blog Cryptographic Engineering, où il y a une bonne description de l'attaque, en fait, le fait que SSL V2 ne soit plus activé, c'est seulement depuis janvier de cette année, dans un patch SSL, où ils ont définitivement droppé le support sur SSL V2. Par contre, il semblerait que tu puisses quand même atteindre le code SSL V2, même si, par exemple, les suites cryptographiques, si tu penses l'avoir désactivé dans la configuration. Donc,
ce que l'on a sur, ce dont je suis certain, c'est que sur toutes les plateformes, base Debian, Ubuntu, etc., typiquement, et je pense sur les Fedora aussi, le paquet qui est livré avec la distrib est compilé sans le code SSL V2. À moins qu'il y ait un problème avec les macros OpenSSL, comme c'est déjà arrivé dans le passé, mais ce serait intéressant de regarder. Parce qu'il y a une vraie différence entre la librairie compilée sans le support du protocole et la désactivation des suites dans la configuration du serveur SSL. Que ce soit un HTTPS, un IMAP, peu importe.
Moi, c'est pour ça que je suis assez étonné dans les chiffres du papier où ils prétendent qu'un tiers des serveurs Internet sont vulnérables. Donc déjà, il faut le prendre à l'envers. Ça veut dire qu'on a quand même les deux tiers qui sont pas vulnérables. Et visiblement, le tiers vulnérable, ça correspond pas aux serveurs les plus connus. Donc c'est effectivement des serveurs qui auraient pas du tout été mis à jour depuis très longtemps.
Non, alors là, il y a plusieurs points. D'abord, il y a que 17% des serveurs qu'ils ont testés qui sont vulnérables. Ensuite, je crois que leur base de test, ça doit être le Alexa top quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est top 1 million au moins. Top 10 000 ? Top 1000 ?
Bah, ils donnent un lien sur du top 10 000.
Ok, donc disons, c'est le Alexa top 10 000 là-dedans, il y en a 17% de vulnérables. Ensuite, ils arrivent à 33% parce qu'ils prennent en compte le fait qu'il y a pas mal de services qui réutilisent le même certificat sur tous les endpoints. Et donc, en fait, en parlant, par exemple, avec un vieux postfix ou un truc comme ça, qui, lui, n'a pas désactivé le SSL V2.
OK.
Et donc, c'est là où tu arrives aux 33%. Après, la base aussi qu'ils ont fait partie d'un scan qu'ils ont réalisé en février 2016. Donc, je sais pas comment a été gérée la faille, mais a priori, on peut supposer que tous les gros éditeurs... ont eu la faille sous embargo et ont patché, et qu'en février 2016, les gens étaient... je veux dire, le top 10, en tout cas, était probablement protégé contre la faille. Ou alors, c'était complètement irresponsable de leur part.
Parce que là, en tête de liste, on trouve quand même Yahoo, Weibo, qui sont pas des petits sites, Alibaba, PHP.net, Flickr. Y a des sites du Akamai HD aussi. Donc, c'est pas franchement des serveurs dont on s'attendrait qu'ils soient configurés avec les pieds.
Sur Postfix, ça a définitivement disparu le 20 juillet 2015. Le problème.
Ah, tu veux dire que Postfix avait connaissance du problème depuis le 20 juillet
2015? Non, c'est simplement que dans la déconfiguration par défaut de Postfix, il prend pas SSL V2 et donc il a pas le problème.
Oui, mais alors ça, tu vois, j'en serais pas. Évidemment, il y a pas de code pour tester, donc c'est basé uniquement sur l'explication qu'ils font de la faille. Je serais pas surpris qu'il y ait une des failles qui consiste justement à ce que tu puisses downgrader en SSLv2, même si c'est pas officiellement marqué dans la configuration.
Ah ben, tu peux demander en SSLv2 dans la configuration, mais c'est une volonté de configuration. Ils ont l'air de dire que la configuration par défaut qui interdit SSLv2 fait que Postfix est plus vulnérable depuis juillet 2015.
Okay.
Bah c'est eux qui le disent dans leur papier, donc moi je fais confiance. Hein.
Parce que l'API OpenSSL, elle s'appelle SSL V23_method. Donc, tu vois, ils font pas la différence entre V2 et V3. Quoi. Après, là j'avoue que c'est basé uniquement sur la lecture de l'advisory, donc après il faut creuser. Quoi.
Effectivement, ils recommandent aussi de supprimer définitivement SSL V3.
Aujourd'hui, c'est une bonne pratique de passer en TLS 1.0 minimum.
C'est une bonne pratique depuis très longtemps, mais c'est comme toutes les bonnes pratiques, il y a une rémanence absolument incroyable.
Il est absolument certain que même dans 10 ans, on trouvera encore du SSL V2. Après, enfin, dans la longue taille d'Internet, quoi, je veux dire, tous les équipements type imprimante et autres, enfin, les trucs qui ont une très très longue durée de vie, où le hardware est supporté pendant des années. Bon. Après, sur les détails techniques de la faille, en l'absence de preuves de concept, on peut pas vraiment en dire plus. Sauf à se plonger dans le code d'OpenSSL et à essayer de vraiment comprendre ce qui se passe. Mais enfin, la faille, elle est à moins de 24 heures, donc que les auditeurs nous excusent si on n'a pas encore eu le temps de le faire. Par contre, il y a eu beaucoup de discussions intéressantes sur le fait que cette faille était beaucoup plus facilement exploitable à cause des suites export, des suites cryptographiques affaiblies que le gouvernement américain imposait d'avoir pour tous les produits qui étaient exportés en dehors des US. Et donc, dans le contexte actuel où il y a beaucoup de discussions sur l'introduction de backdoor et autres, on voit que si une backdoor introduite maintenant dans un produit peut avoir des conséquences 20 ans après sur la sécurité globale d'Internet.
Ah ben ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, je n'ai pas le sentiment que cette faille soit vraiment grave. C'est-à-dire qu'elle est bien marketée, avec un beau site web, d'un papier et plein d'auteurs qui se font mousser. Mais ok, dans certaines circonstances quand même assez compliquées, je vais pouvoir écouter des communications qui n'auraient pas dû l'être. Mais bon, quand on voit le nombre de gens qui se font pomper leurs données, leurs mots de passe, etc., parce qu'ils ont bêtement cliqué là où ils n'auraient pas dû et qu'il y a un logiciel malfaisant qui a pris le contrôle de leur poste, est-ce que véritablement, vous pensez que cette faille, elle est grave?
Moi, je pense qu'elle est grave parce qu'elle est exploitable. Parce qu'il y a beaucoup de failles en crypto où on t'explique que c'est dramatique, il y a une attaque sur tel truc, etc. Puis tu te rends compte que l'attaque, en fait, est passée de 2 puissance 256 à 2 puissance 128. Alors effectivement, d'un point de vue cryptographique, c'est un affaiblissement considérable, mais d'un point de vue pratique, tu sais pas péter du 2 puissance 128 aujourd'hui. Par contre, là, si tu as besoin de faire 17 000 requêtes pour déchiffrer une connexion sur 200, c'est du niveau où tu peux commencer à faire une preuve de concept qui va marcher dans une démo client, quoi. Donc c'est vraiment de la crypto appliquée, entre guillemets. Après, oui, pour la long tail des utilisateurs, mais imagine par exemple une connexion VPN, ça semble relativement faisable de sniffer 200 connexions sur le même serveur si t'es au bon endroit. Il suffit que tu en aies une qui se déchiffre, tu récupères le login mot de passe de l'utilisateur à l'intérieur, après tu reviens en VPN à l'intérieur de l'entreprise et l'entreprise elle est finie, quoi. Donc concrètement, quelqu'un qui va sur un hotspot ou dans un Wi-Fi d'hôtel où il y a beaucoup de connexions VPN, il en casse une sur les 200, il récupère le login mot de passe à l'intérieur et il a pété une boîte. Ça me semble quand même, je dirais pas que c'est critique et que l'internet va s'éteindre, mais ça me semble quand même plus pratique que la majorité des attaques qu'on a eues avant, à part Outbleed.
Oui, c'est certainement plus pratique qu'un truc comme Beast, qui est quasiment un reproductible, mais qui a été overhypé et qui a fait que tout le monde est passé sur RC4 pendant un certain temps. Ça ressemble quand même quelque chose de plus pratique. Après, personnellement, une des raisons pour laquelle je l'ai pas approfondi, c'est qu'en voyant l'advisory, je me suis dit que c'était quand même le symptôme de machines qui devaient être très mal configurées, voire jamais mises à jour, pour avoir encore tout ça à l'actif. Et parce que avoir les suites export actives et avoir SSL V2, pour moi, je me suis dit que c'était certainement des machines qui avaient aussi des applis pas à jour et qui auraient peut-être des failles plus faciles à exploiter.
Clairement.
Sauf si vraiment sur des machines récentes, enfin tenues à jour et avec un OpenSSL raisonnablement récent, elle est quand même exploitable avec SSL V2 désactivé.
J'ai retrouvé, en fait c'est effectivement, ça date du mois de janvier 2016, il y a un CVE qui s'appelle 2015-31-97 qui est classé comme low severity, et en fait ce CVE s'appelle SSL V2 doesn't block disable ciphers. Donc c'est marqué, bon je te fais la traduction en live, mais en gros un client peut négocier du SSL V2 même si ça a été désactivé côté serveur. Le seul moyen que la négociation SSL V2 échoue, c'est qu'il faut en plus qu'il y ait eu un flag de passer à l'API qui est SSL underscore OP underscore no underscore SSL V2. Donc en fait, la faille qui permet de faire du SSL V2 même quand ça a été désactivé, elle a été corrigée qu'en janvier 2016. Et à partir de là, effectivement, je pense que les outils de sécurité le voient pas, parce qu'en fait, ils vont négocier avec le serveur, et le serveur va leur dire voilà la version de protocole et les suites cryptographiques que je supporte, et donc le client va faire confiance à cette information. Maintenant, si tu sais qu'il y a une faille dans OpenSSL qui permet de bypasser ça, et que tu testes explicitement SSL V2, là, du coup, tu peux te rendre compte que le serveur accepte quand même de faire du SSL V2. Je sais pas si les scanners de vulnérabilité, les outils type Nmap et autres, aujourd'hui, implémente un check pour la CVE 2015-31-97. Et ça, c'est une des failles qui permet à l'attaque d'être réellement efficace. Donc tout ce qui est OpenSSL 1.0.1 et 1.0.2 qui n'a pas été patché depuis janvier est théoriquement vulnérable.
Je disais, quand des preuves de concept sortiront, ce sera intéressant d'aller voir concrètement si ça marche ou pas dans les différentes configurations, parce que là, je suis quand même très curieux. En particulier dans les versions où on a compilé OpenSSL avec SSL V2 désactivé.
Alors en attendant, qu'est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs ?
Bah, c'est toujours la même histoire. Je veux dire, cet épisode, on l'a fait 100 fois, on l'a fait sur Heartbleed, on l'a fait sur la faille glibc il y a quelques semaines. À partir du moment où la faille est au cœur de ton implémentation et que ton implémentation est déployée sur tous tes équipements et que tu n'as pas le code source et que tu dois courir après tous les vendeurs, globalement, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Là, le problème, c'est que si tu as si des gens avaient connaissance de la faille et l'ont exploité dans la nature, tu dois partir du principe que donc tes clés privées n'ont pas été compromises, c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, tu as une connexion qui a pu être déchiffrée. Et quelle que soit la connexion, c'est-à-dire enfin ça peut être du SMTPS, ça peut être du VPN SSL, ça peut être du HTTPS, voilà. Donc là, à partir de là, c'est quoi fais ton analyse de risque, quoi. Qu'est-ce que tu risques d'avoir perdu? Si tu as perdu un mot de passe sur une connexion IMAPS, par exemple, qui peut servir à se reconnecter sur un VPN derrière, parce que le login mot de passe passe en clair dans le tunnel SSL sur IMAPS, voilà, est-ce que c'est grave ou pas? Mais je pense que finalement, c'est la même histoire que d'habitude, quoi. Tu dois partir du principe que les attaques sont permanentes et faire du monitoring, parce que ton premier niveau, sa boîte de la crypto military grade, il peut quand même être pété à un moment ou à un autre, quoi.
On revient toujours au même. Gestion des incidents de sécurité et tutti quanti.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est mis en évidence par les différentes séries de bugs sur OpenSSL, c'est que les OpenSSL embarqués dans des appliances, c'est pas forcément une bonne idée. Typiquement du SSL V2, la dernière fois que j'en ai vu, en 2015, c'était sur du VPN, c'était pas sur des serveurs web. Et qu'il faut vraiment penser que dès qu'on expose un service sur Internet qui contient, sur lequel on fasse reposer de la sécurité, il faut qu'on soit capable de le mettre à jour. Et donc, si on a un équipement sur lequel on n'est pas capable de faire la mise à jour et qu'il est exposé à Internet,
peut-être qu'il va falloir réfléchir à faire autrement, faire un reverse proxy SSL, déporter le SSL ailleurs, enfin faire quelque chose. C'est le genre de choses qu'on a eu à faire plusieurs fois pour des clients, donc ça se fait bien, mais il faut le gérer en amont, quoi.
Donc, en conclusion, il faut patcher. Si on ne peut pas patcher, on va essayer de mettre en frontal, par exemple, un reverse proxy ou un équipement qui sait faire du virtual patching. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre?
Bah, si tu as gardé des logs complets de ton trafic SSL, tu peux voir s'il y a eu des attaques, enfin, s'il y a eu des gens qui ont parlé SSL V2. Et c'est à peu près tout ce que tu peux faire de plus.
Donc ça sera dans les logs du serveur web?
Non, c'est là, il faut faire une full packet capture au niveau du réseau et garder les en-tête SSL.
Mmh. Oui, alors ça, c'est, je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse ça. Hein. Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous disons à très très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.